Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Puisqu'on vous disait que les Parisiens s'en allaient, bien ça se confirme. Le nombre d'élèves dans les écoles de la capitale n'a jamais autant baissé qu'en cette rentrée. Il en manque 6000. Sans doute partis voir avec leurs parents si l'herbe est plus verte ailleurs. Illustration dans un instant. Et à la une ce matin du nucléaire, de l'hydrogène, des semi-conducteurs et des biotechnologies. Sacré programme pour la France de 2030. C'est le plan d'investissement qu'annoncera Emmanuel Macron tout à l'heure. Convoqué par le ministre de l'Intérieur, le président de la Conférence des évêques de France, va devoir s'expliquer sur le secret de la confession aujourd'hui, ardemment défendu même après le rapport Sauvé. Parole de prêtre à suivre, avant les mots d'un homme qui ne connaît que trop la barbarie des violences sexuelles, prix Nobel de la paix. Il sera dans ce studio tout à l'heure.
Le gynécologue et chirurgien Denis Mukwege, il est donc à notre micro avec Léa dans le grand entretien. C'est dans une vingtaine de minutes. Il publie un livre terrible, mais pas seulement, La force des femmes aux éditions Gallimard. Dialoguez avec lui, appelez-nous amis auditeurs au 01 45 24 7000.
Comment sauver les Afghans massivement menacés par la faim? Ça c'est l'objet d'une réunion spéciale du G20. Aujourd'hui nous serons à Kaboul et puis au théâtre à Paris avec Vanessa Paradis pour la première fois sur les planches.
France Inter.
Ce sont les nouveaux voisins qui agacent à Bordeaux ou à Nantes, ces Parisiens qui ont pris la tangente et qui font grimper les prix de l'immobilier. Mais combien sont-ils à avoir sauté le pas, dégoûté de la capitale après les confinements? Pour la première fois, un chiffre dit l'ampleur du phénomène, celui des enfants qui ne sont donc plus scolarisés dans les écoles publiques de Paris. 6000 cette année, 5% des effectifs ont disparu à la rentrée, ce qui est inédit. Et tous les arrondissements sont concernés, Farida Noir.
Dans cette école du 20e arrondissement de Paris, à la sortie des classes, on voit beaucoup moins de frimousse que l'année dernière. Rachid attend sa fille, elle a dû dire au revoir à plusieurs de ses petites camarades.
Elle a perdu 3 copines.
Mais pas que, puisqu'en tout, dans sa classe de CM2...
Ils sont 15. D'habitude, ils sont 20, 25.
Cette année, l'école ne compte plus que 115 élèves au lieu de 140 habituellement. Ça fait donc 25 écoliers en moins.
C'est assez énorme. On n'a jamais eu autant de pertes d'élèves en un an.
Des départs accentués par le confinement. Beaucoup de familles sont parties vivre en banlieue, en province ou à la marge ont opté pour des écoles privées, précise aussi la directrice de l'école. A priori, moins d'élèves, c'est plutôt appréciable quand on y pense.
On en profite parce que nous avons des classes avec des petits effectifs et que c'est de très bonnes conditions pour les enseignants pour travailler et pour les élèves de travailler dans des petits groupes de moins de 20.
Mais l'inquiétude la gagne rapidement quand il s'agit de se projeter.
Prochainement, on va travailler sur les effectifs de la rentrée prochaine et il faudra certainement envisager des fermetures.
63, c'est le nombre de fermetures de classes depuis la rentrée, indique le rectorat de Paris, contre 43 ouvertures. Le nombre moyen d'élèves par classe a lui aussi baissé avec une moyenne de 20,5, tout niveau confondu.
Et après le temps des confinements et des départs, celui des plans d'urgence et des plans de relance, voici France 2030, le grand plan d'investissement d'Emmanuel Macron, annoncé ce matin, assorti d'au moins 30 milliards d'euros à dépenser dans les 5 prochaines années. Un horizon pour le président dont le mandat s'achève dans 6 mois, comme une feuille de route pour un prochain quinquennat. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Avec ce plan, Emmanuel Macron mise tout sur l'innovation pour ne pas rester à la traîne des États-Unis et de la Chine.
Oui, le chef de l'État promet un changement de méthode, investir massivement et rapidement sur les technologies de rupture qui seront indispensables demain sans financement massif de l'innovation. Pas de nouvelles filières industrielles de pointe. Dans les 10 prochaines années, cela implique pour l'Élysée de changer de braquet, d'accélérer pour que la France ne soit pas technologiquement déclassée à l'horizon 2030 sur l'hydrogène, les semi-conducteurs, les batteries électriques, les voitures autonomes ou les biotechnologies. La France innove dans ses laboratoires publics ou ses start-up privées, mais n'est pas capable de transformer ses découvertes en nouvelles filières industrielles.
Et quelle est la recette du président pour y arriver, Laurent ?
Alors, faute de tour de table et de financement suffisamment large, les prototypes industriels développés en France partent le plus souvent à l'étranger. Ce plan d'investissement multipliera donc les appels à projets avec des financements publics et privés. Cela implique également de permettre à une myriade de sous-traitants français d'émerger de ces filières pour créer de l'emploi. L'objectif est de créer plusieurs centaines de start-up industrielles sur ces 10 prochaines années.
Laurent Kramer, et pour ne pas laisser passer les trains de l'économie, l'économie verte de demain. Le président va mettre l'accent sur l'hydrogène, cette énergie qui ne dégage que de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Elle fait rêver dans l'industrie automobile et chez les avionneurs. Mais il reste bien du travail et de la recherche avant de voir un jour un avion voler à l'hydrogène, Philippe Lefebvre.
Chez Airbus, on laisse entendre que le premier vol avec un avion fonctionnant à l'hydrogène n'interviendra pas avant 2035. Avant cela, l'avionneur européen devra répondre à de nombreuses questions. Tout d'abord, quel type d'avion choisir pour cette expérimentation? Car la principale difficulté, c'est qu'il faut 4 fois plus de place pour le carburant dans un avion à hydrogène que dans un avion classique. Xavier Tittelmann est expert aéronautique chez Starbus France.
On va maintenir l'hydrogène à moins 253 degrés. Il y a des systèmes cryogéniques, c'est très compliqué à gérer. Et la grosse difficulté, c'est comme l'hydrogène a un volume qui est très très important par rapport au kérosène, on ne peut pas rester sur les architectures classiques. Soit on va condamner une partie de la cabine pour agrandir le réservoir, soit on passe directement sur la génération des avions à aile, en forme d'aile delta. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait pour les avions civils.
Et si aujourd'hui 1500 milliards de dollars sont investis dans le monde pour travailler sur l'avion zéro carbone, un problème de taille se pose, la fourniture en hydrogène, explique Nicolas Geland. C'est l'expert carburant chez le motoriste Safran.
Si on veut avoir un impact environnemental positif, il faut que l'hydrogène qui est produit soit produit à partir d'électricité bas carbone. S'il est produit comme maintenant à partir d'énergie fossile, du réformage des gaz naturels par exemple, ça n'a strictement aucun intérêt environnemental.
Et Safran veut aussi relever un autre défi, proposer des moteurs moins gourmand en carburant, même en carburant vert.
Et en attendant, l'avion et la voiture à hydrogène, les prix des carburants aujourd'hui ne cessent de monter. 1,53€ en moyenne à la pompe pour le gasoil la semaine dernière, c'est un record. Le précédent remonte à octobre 2018, juste avant le début de la crise des Gilets jaunes.
Il est 8h08, Florence, il a bien fallu dire oui.
Xavier Bertrand, cavalier seul de la droite, a fini par se ranger hier. Il se confrontera bien aux autres candidats de sa famille politique lors du congrès de LR le 4 décembre prochain, au nom du Rassemblement et au grand soulagement du parti qui redoutait par-dessus tout une double candidature à la présidentielle. Et voilà qui fait partie de l'équation des LR avant cette élection. Éric Zemmour qui pourrait siphonner une partie de leur électorat. Il n'est toujours pas candidat, mais sa participation ne fait plus aucun doute. Si je renonçais, beaucoup de gens le prendraient comme une trahison. Voilà ce qu'il dit lui-même, Élodie Forêt, tout en étoffant sa panoplie de candidats.
Au cœur du 8e arrondissement de Paris, un local en travaux. C'est ici, à quelques encablures de l'Élysée, qu'Éric Zemmour devrait mener campagne. Un QG et une équipe dévoilée au fur et à mesure de ses déplacements aux côtés de l'énarque Sarah Knafo, Olivier Ubeda, ce communicant responsable événementiel de Nicolas Sarkozy en 2007, gère désormais la tournée du polémiste. Ce week-end en Corse est également apparu Michel Loussouarne, ex-directeur de campagne du RN Andrea Cotarac. Autre personnage essentiel, Jean-Frédéric Poisson, le patron de VIA, nouveau nom du Parti chrétien démocrate, figure des milieux conservateurs, est à la manœuvre pour les législatives en charge de réussir la chimérique union des droites. A priori pas sous la bannière d'un seul parti, mais dans une confédération qui réunirait les amis d'Éric Zemmour, une partie des LR et du RN, sans oublier des candidats issus de la société civile avec le même écueil qu'En Marche en 2017. Un travail titanesque de vérification pour trouver des profils assez charpentés et faire la chasse au passé trouble.
Élodie Forêt, quand un responsable du culte estime que la loi religieuse est plus forte que celle de la République, c'est Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, en défense du secret de la confession, au lendemain du rapport sur la pédocriminalité dans l'Église. Pour ses propos, il est convoqué ce mardi par Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, car dans la République, le code pénal doit supplanter le droit canonique. Mais dans les faits, comment se passent les confessions ? Rémi Brancato a posé la question à deux prêtres qui confient avoir été confrontés à des récits d'abus sexuels.
Pour la plupart des prêtres, le débat actuel sur la levée du secret de la confession charrie beaucoup de fantasmes.
Un prédateur sexuel qui se reconnaît coupable, soit au confessionnal ou ailleurs d'ailleurs, ça n'existe pas, je suis désolé de vous le dire.
Le père Pierre Amar à Versailles assure n'avoir jamais vécu une telle scène.
Si un pénitent venait me confier de tels actes, je renverrais le coupable à sa conscience pour l'exhorter à regretter ses actes, à les assumer devant la justice des hommes.
Mais le respect du secret reste au cœur du sacrement de la confession.
Lorsqu'on reçoit une personne, si on disait quoi que ce soit, on serait relevé de notre ministère.
À Strasbourg, Franck Guichard, prêtre, n'a jamais confessé d'agresseur. En revanche, en 5 ans, dans ses précédentes fonctions, il a dénombré 10 à 15 récits de victimes d'agressions enfants par des religieux.
Ce qu'on peut faire, c'est demander à une personne, est-ce qu'on peut en parler à l'extérieur ? Moi, je me suis donné l'obligation morale de ne pas la trahir, mais aussi de lui proposer d'aller plus loin si elle le souhaite. Souvent, les personnes refusent.
Les victimes qu'il a écoutées étaient âgées, les auteurs décédés, dit-il, et quand la conversation se poursuit hors de la confession, les faits sont signalés au procureur.
Il n'y a pas qu'une décision de justice qui va permettre de guérir une personne, c'est aussi tout l'accompagnement qu'on va faire.
Et c'est souvent la confession qui permet de débuter, selon lui, cet accompagnement.
Rémi Brancato, dans cette affaire, les langues se délient. Une troisième plainte a été déposée contre un professeur de gynécologie de l'hôpital Tenon à Paris pour viol sur personne vulnérable. Le professeur Émile Daraille, suspendu de son poste de chef de service vendredi dernier, conteste les accusations portées contre lui. Des mots de peur et de sang depuis le début de la semaine dernière au palais de justice de Paris. Une soixantaine de rescapés du Bataclan racontent ce qu'ils ont vécu le soir du 13 novembre 2015. Les faits, les blessures, le deuil et l'immense sentiment de culpabilité qui parfois les assaille. Cela a été évoqué très souvent à la barre, Charlotte Piret, hier encore.
Il y a cet homme qui avait l'habitude d'acheter des places de concert pour ses amis et qui s'en veut aujourd'hui d'être celui qui a offert celle du 13 novembre. Il y a tous ceux extrêmement nombreux qui confient leur culpabilité d'avoir simplement survécu. Ceux qui vivent mal avec le souvenir d'avoir marché sur des corps dans leur fuite. Il y a Alix qui n'a pas été une belle personne ce soir-là, dit-elle dans un sanglot. À chaque balle, je me disais, pourvu qu'elle soit pour quelqu'un d'autre. Maureen qui évoque cette femme grièvement blessée à côté d'elle et cette terrible question, l'aider ou fuir. J'ai pensé à ma fille, je suis partie, souffle-t-elle. Pour Richard, c'est ce couple qu'il s'en veut de ne pas avoir aidé. La femme avait une énorme plaie à l'épaule et suffoquait. La culpabilité aussi d'être revenu du Bataclan sans deux de ses amis. Culpabilité vis-à-vis de sa fille encore. Chaque jour, elle me demande si elle me verra le soir. Elle va même jusqu'à se lever très tôt le matin pour me reposer la question. Pour Tom, enfin, c'est la main de cet homme qu'il détache de sa cheville pour aller sauver son meilleur ami. Cet homme dont chaque soir, il revoit le regard dans ses cauchemars.
Charlotte Piret, il y a presque un an, c'est sur un professeur que s'abattait le terrorisme islamiste. Samuel Paty assassiné en sortant de son collège de Conflans Sainte-Honorine. Pour la première fois, 7 de ses collègues témoignent au micro France Inter de Sonia Princé. Vous les avez peut-être entendus tout à l'heure à 7h15. D'autres témoignages seront diffusés dans le journal de 9h.
8h13, comment Florence aider les Afghans?
Un G20 spécial sera consacré à ce défi aujourd'hui à l'initiative de l'Italie. Alors que la situation humanitaire est encore plus dramatique depuis le retour des talibans, sans aide internationale, plus de 9 ménages sur 10 n'ont désormais plus de quoi se nourrir suffisamment, selon le programme alimentaire mondial. Et ça se voit dans les rues de Kaboul, où les familles sont nombreuses à vendre leurs biens sur les trottoirs. Reportage signé Sonia Ghezali.
Pervez se tient près d'une voiture chargée de ses quelques biens au bord de la route. Dans le coffre, des matelas, des petites commodes, une voiture en plastique pour enfants. C'est la troisième fois que ce père de famille vend ses biens aux vendeurs d'occasion.
Avant, on pouvait manger de la viande et du riz une fois par mois. Maintenant, on ne peut même plus. Un kilo de viande coûte 500 afghanis, un kilo de riz coûte 150 afghanis. Mais les gens n'arrivent même pas à gagner 100 afghanis.
Cet ancien commerçant qui a fait faillite avec l'arrivée des talibans repart avec une centaine d'euros en poche devant les banques de la capitale. Les files d'attente s'allongent.
Cela fait 3 semaines que je viens presque tous les jours. Je n'ai réussi à retirer qu'une seule fois 20 000 afghanis. J'ai déposé mon argent avant la chute du gouvernement parce que j'avais peur qu'on me le vole. Mais maintenant, les gens sont en train de mendier leur propre argent à la banque.
Amanullah Paikar confie qu'il survit, comme de nombreux Afghans depuis le 15 août dernier. Les banques, à court de cash, n'accordent qu'un retrait par semaine à leurs clients d'un montant maximum d'environ 200 $. Sonia Ghezali, RFI pour France Inter.
À l'instant, cette information de nos collègues de France Bleu, Pays Basque, ils nous annoncent un accident de TER à Saint-Jean-de-Luz. Il y a 3 morts et 1 blessé grave. On n'en sait pas plus. On y reviendra évidemment dès le journal de 9h. Et de une première nation qualifiée pour le mondial de foot l'an prochain au Qatar. C'est l'Allemagne après une victoire hier en Macédoine du Nord. Enfin, voici l'événement de la rentrée théâtrale avec une femme qui monte sur les planches pour la première fois. C'est Vanessa Paradis dans Maman, une pièce écrite par son mari Samuel Benchetrit. Elle partage la scène avec Eric Elmosnino et Félix Moati au théâtre Édouard VII à Paris pour incarner une femme en quête de l'enfant qu'elle n'a pas eu. Un rôle magnifique pour une pièce remplie de douceur qui a séduit Stéphane Capron.
Jeanne et Bernard forment un couple soudé par 25 ans de mariage. Son mari est attentionné, mais elle s'ennuie. Vanessa Paradis et Eric Elmosnino incarnent 2 personnages d'une grande sensibilité.
Je pense que c'est un des personnages les plus tendres, comme ça, entre guillemets, que j'ai eu à faire. Ouais. Et moi, je l'aime beaucoup, et de plus en plus, ce Bernard, on peut dire qu'il s'appelle Bernard, quand même, on a le droit.
Alors, Bernard, il fait craquer tout le monde, les hommes et les femmes. Bah, Bernard est exemplaire, et il est rempli de compréhension et d'amour pour sa femme, et il la suit dans ses proposition folle qu'elle lui fait.
Cette proposition, c'est celle d'adopter un jeune de 25 ans qui aurait pu être leur fils. Pour son entrée dans le monde du théâtre, Vanessa Paradis brille par son jeu tout en retenue.
J'avais peur que la musique et les musiciens me manquent sur scène et en fait, il y a une autre musique au théâtre. Moi, j'ai découvert une nouvelle passion. J'adore ça. Évidemment, il faut le texte, le metteur en scène et les partenaires. Là, ça commence très fort. Quoi. Cette pièce est tellement réussie, elle est tellement belle et elle fait tellement plaisir aux gens. Bien sûr, je veux croire qu'il y en aura d'autres qui me feront autant d'effets.
La pièce aborde des thèmes de société graves comme les violences sexuelles, mais l'écriture de Samuel Benchetrit donne de la légèreté à cette magnifique histoire d'amour.
La maman avec Vanessa Paradis, Eric Elmosnino, Félix Moati jusqu'en janvier au théâtre Édouard VII à Paris.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Marie-Pierre, les brouillards sont nombreux.
Oui, Nicolas, est bien dense, hein, au nord de la Loire, comme vers le bassin rennais ou dans la vallée de la Seine, à Nevers, mais aussi dans les Ardennes, en Champagne, vers la Creuse et le Val-de-Saône. Ailleurs, le soleil se lève de la Bretagne aux Pyrénées autour de la Méditerranée, sous le vent qui se renforce et des températures bien contrastées entre les moins 1 à Arban dans l'Ain et les 16 relevés à l'île du Levant, pas plus de 3 à Orléans, 4 à Brest, 9 à Calvi.
Et cet après-midi, retour des nuages sur le nord-est.
Et oui, et comme hier, hein, ces nuages donneront quelques pluies près des frontières belges et allemandes. Vous retrouverez des éclaircies assez timide de la Normandie à l'Île-de-France en descendant sur le Massif central et les Alpes. En revanche, vous profiterez d'une belle journée ensoleillée de la Bretagne au Cotentin en descendant vers l'Atlantique, le sud-ouest et autour de la Grande Bleue sous le vent qui va souffler jusqu'à 90 km par heure dans la vallée du Rhône et sa baisse. 12 à Saint-Étienne seulement, 13 à Strasbourg, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Honfleur, Lille ou Lyon. Vous aurez 17 à Paris, encore 19 à Nantes et Bordeaux, 20 à Marseille et 23 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. France Inter, il est 8h18, c'est géopolitique.